le pape te veut. Alors je descends. Et le soir, le Vatican, c'était désert, il n'y avait personne. Je suis arrivé dans la bibliothèque privée de Jean XXIII qui m'attendait. Et qui me dit « Filio bello », intraduisible en français. Alors il connaissait bien sûr mon histoire, mais il me l'a fait raconter. Et puis quand ça a été fini, il s'est levé, il m'a pris les mains, puis il m'a dit « Tu es un jeune prêtre ?»« Oui, je suis un vieux pape. »« Oui. Si le vieux pape te demande de l'aider, tu veux servir l'Église ?»« Oui, tu ne vas pas lui refuser. » Pour le moment. Voilà donc ma première rencontre.
Et qu'est-ce qui vous a marqué à ce moment-là? Qu'est-ce que vous retenez?
Sa bonté. Enfin, écoutez, moi, j'étais un jeune prêtre tout à fait inconnu. Donc, j'ai été profondément ému et je le reste. Voilà.
C'est son style qui vous a marqué, sa façon d'être aussi direct?
Le style, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'au début, donc, c'était le début de son pontificat. Et donc, le pape fait la tournée des popotes. À la fin, il nous réunit tous à la secrétaire d'État. Et il a dit, ma carissimi, chers amis, il a dit que vous travaillez à la secrétaire d'État. Alors vos parents, vos amis, ils croient que vous voyez le pape tous les jours et vous voulez pas mentir. Mais alors pour vous éviter de mentir, de faire un pire mensonge, vous pourrez dire maintenant quand le Saint-Père est venu dans mon bureau.
Vous, de son pontificat, en l'ayant vécu, qu'est-ce que vous retenez?
C'est le concile qui a été une annonce totalement inattendue et qui a engagé l'Église, on peut bien le dire, dans une nouvelle voie, qui ensuite, avec les successeurs, le pape Paul VI, dont j'ai été longtemps le collaborateur, puis le pape Jean-Paul II, dont j'ai été plus longtemps encore le collaborateur, puis le pape Benoît et aujourd'hui le pape François, tout ça s'est déclenché par le pape Jean XXIII. C'est lui qui a mis en route tout un processus. Vous voyez, notre pape dit toujours qu'il faut aller vers la périphérie. Donc, le premier surnom que les Romains ont donné au pape Jean, il me rappelle comme si c'était d'hier, c'était Giovanni Fuori le Mura, donc Jean hors les murs. Je me rappelle cette stupeur, le pape marchant dans les rues. Et puis ensuite, les visites pastorales. Aujourd'hui, on est tout à fait habitués. C'était presque une émeute, enfin, quand le pape est allé enfin, dans les paroisses. C'était, voilà, voilà. Et donc, ce souvenir que je garde du pontificat, c'est donc ça. C'est donc un pape qui sort du Vatican et qui appelle les évêques de l'Église entière à partager avec lui la charge de l'Église, parce qu'on dit toujours la charge de toutes les Églises, avec le concile réuni, va dire explicitement que si chaque évêque, naturellement, est responsable directement de son diocèse, il participe aussi à la sollicitude de toutes les Églises. Donc voilà donc tout ça pour moi, ce que je garde donc du pontificat de Jean XXIII. Et puis le lendemain de sa mort, je suis appelé ma première interview à la télévision, donc en juin 1963. 5 colonnes à la une, donc une émission célèbre. Et je prends un taxi. Le chauffeur de taxi, voyant que je sortais de la secrétaire d'État, me dit « Papa Giovanni, Papa Buono, Papa Santo ». Le chauffeur de taxi me dit « Pape Jean, Pape Bon, Pape Saint ». On a attendu quelques années pour le déclarer officiellement, mais pour le bon peuple, c'était évident. Et c'était évident aussi pour les évêques, je me souviens. Donc plusieurs se sont levés au concile pour demander qu'on le proclame saint par acclamation. Alors Paul VI prudent a voulu suivre la procédure. Pape saint, si vous voulez, c'est une évidence.
Vous parlez de Jean hors les murs. On compare déjà François, le pape actuel, avec Jean XXIII. Est-ce que vous partagez cette comparaison?
Je vais vous dire, il y a quelques mois, je suis retourné à Bergame. J'en ai profité pour rendre visite à Don Doloris, comme je l'appelle toujours. Donc, le secrétaire du pape Jean XXIII, qui a 98 ans, il m'a reçu pendant plus d'une heure. Et de lui-même, il me dit « Papa Francesco et Papa Giovanni Redivivo ». Donc, en bon français, le secrétaire particulier du pape Jean XXIII, me dit de lui-même, le pape François, c'est le pape Jean XXIII redevenu vivant. Alors écoutez, je ne peux pas avoir de source plus authentique que je partage, bien entendu.
15 ans plus tard, on est en 78, Jean-Paul II est élu pape.
Quand il est élu pape, je suis recteur de l'Institut catholique de Paris. Dès le premier instant, si vous voulez, sans savoir ce qui se passerait, mais je savais qu'il se passerait des choses extraordinaires. Le premier instant, n'ayez pas peur, hein, et puis chose tout à fait extraordinaire, l'année d'après, donc le 1er juin 1980, je l'ai reçu donc à l'Institut catholique dont j'étais recteur. Il avait été invité par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, comme il avait le sens du geste, avant d'honorer la culture tout court, il a voulu honorer la culture catholique. Et je l'accompagne le lendemain à l'UNESCO. Et il fait ce discours quand il leur dit « Moi, évêque de Rome et fils de cette nation que ses puissants voisins avaient rayée de la carte et qui n'a dû sa survie qu'à la culture, cette force qui comme un fleuve souterrain parcourt les étendues de la conscience jusqu'à ce qu'un jour, enfin, elle éclate au grand jour. Et à la fin, le pape termine en disant « Homme de culture, vous avez un pouvoir, vous êtes plus puissant que tous les puissants. » Il venait de dire « Un pouvoir ne tire sa légitimité que dans sa capacité d'incarner la culture de la nation. » Or, le pouvoir de sa Pologne le persécutait. Et donc, il dit aux hommes de culture « Vous êtes plus puissants que toutes les puissances. » Et son dernier mot a été « Continuez !» Donc, vous comprenez en m'écoutant que je garde ce souvenir d'une géant de la foi, comme on l'a appelé, et d'une force extraordinaire. La balle mortifère du 13 mai qui voulait le faire taire n'a pas réussi, n'a pas changé d'un pouce. Il a continué comme avant.
Et ensuite, vous êtes allé au Vatican pour travailler avec lui. Vous étiez à la tête du Conseil pontifical pour la culture.
La culture qu'il m'a fait créer. Et je me rappelle, je ne sais combien de déjeuners de travail, toujours autour du thème de la culture. Et toujours avec une grandeur, si je puis dire, de vision. Et en même temps, une limpidité d'expression et un courage de décision. Toujours. Et donc, ça a commencé comme ça. Le premier déjeuner de travail, il m'avait fait venir pour succéder au cardinal Koenig, le dialogue avec les non-croyants. Et il me dit, alors, comment vous voyez la chose? Et moi, je lui dis, je la vois pas. Oh! Alors, je lui dis, vous savez que j'ai été longtemps le collaborateur de Paul VI. Oui, mon grand prédécesseur. Alors, j'étais en face de lui à table. Je prends le couteau ou la fourchette et je lui dis, vous vous rappelez sa première encyclique? Oui. Ecclesiam Suam, où le pape dit, l'Église se fait conversation, l'Église se fait dialogue. Le premier cercle, ceux qui nous sont les plus proches, parce que je lui dis, pour dialoguer, il faut être deux et avoir un sujet, un terrain commun, une préoccupation commune. Alors, le premier cercle, donc les chrétiens qui ne sont pas catholiques, c'est Jésus, c'est l'Évangile. Le second, les religions, tous ceux qui sont religieux mais qui ne sont pas chrétiens, c'est donc Dieu. Et la troisième, alors il avait compris avant que je termine, eh bien, j'ai dit, très Saint-Père, alors là, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse, puisque vous me demandez de dialoguer avec ceux qui veulent notre perte, ça fait partie de leur programme de travail, puisque nous sommes l'opium du peuple. Alors, il dit, alors je réfléchis tout haut devant lui, j'ai dit, je ne vois qu'un terrain commun, c'est l'homme, et le terrain, la culture. Il s'est soulevé de son siège, et avec son accent inimitable, il dit, l'homme et la culture. Donc, sans le savoir, j'avais mis en route le processus qui a fait créer le Conseil pontifical de la culture.
Et comment c'était de travailler avec le pape Jean-Paul II ?
Eh bien, travailler avec le pape Jean-Paul II, écoutez, j'allais dire, je n'ai pas été le ministre de Napoléon, mais je pense que ça devait être un peu comme ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, comme tous les grands hommes, avait une grande vision, et pour le détail, ça ne l'intéressait pas. Comme le général de Gaulle, il ne s'occupait pas de l'intendance. C'était vraiment la vision.
Et qu'est-ce que vous retiendrez de l'homme Jean-Paul II ?
Ce que je retiens de l'homme, de Jean-Paul II, c'est ça. C'était un homme de prière. J'ai dit quelque part, c'était un puits de prière. Les souvenirs les plus impressionnants que je garde, c'est la messe qu'on célébrait dans sa chapelle privée. Alors, quand vous arriviez, il était plongé dans la prière.
Et de son pontificat ?
Alors, son pontificat est entré dans l'histoire parce que, si l'on regarde le scénario du monde, il a été l'une des forces agissantes, l'une des forces de dissolution donc de l'Empire soviétique. Et puis, à l'intérieur de l'Église, on pourrait dire que c'est son premier mot qui n'a cessé de retentir, « N'ayez pas peur ». Ce « n'ayez pas peur » a eu ses effets, donc aussi bien dans le bloc soviétique, mais aussi dans l'Église. « N'ayez pas peur ».